Vous écoutez France Culture.
Tout de suite, c'est Emmanuel Laurentin, la fabrique de l'histoire.
Merci, et tout de suite, la fabrique de l'histoire. La semaine passée, les commémorations du 50e anniversaire de l'insurrection hongroise nous ont permis d'évoquer l'importance de l'année 1956 au centre et à l'est de l'Europe. Mais ces événements ne devraient pas faire oublier que cette même année 56, le Maroc et la Tunisie devenaient indépendants, qu'en Algérie la guerre prenait de l'ampleur et qu'en Égypte le président Nasser nationalisait le canal de Suez. 1956 au sud, voilà donc le thème de la semaine jusqu'à jeudi dans la Fabrique de l'Histoire, une semaine légèrement perturbée puisque nous n'aurons pas d'émission mercredi pour cause de Toussaint. Jeudi, nous évoquerons donc les associations qui permirent et préparèrent l'indépendance marocaine. Demain, mardi, nous écouterons des témoins égyptiens de la nationalisation du canal de Suez. Et aujourd'hui, exceptionnellement, le grand entretien de la semaine sera non un témoin de cette époque, mais un historien, Irvin Wall. Cet historien américain est de passage à Paris, il y a quelques jours à l'occasion de la sortie de son livre aux éditions Soleb, Les États-Unis et la guerre d'Algérie, un livre important qui, à partir d'archives inédites, donne une nouvelle interprétation aux relations franco-américaines à l'époque des événements d'Algérie. Un livre dont la thèse centrale est un peu iconoclaste même, puisqu'Irvin Wall y considère l'arrivée de De Gaulle au pouvoir comme souhaitée par une diplomatie américaine, lasse de voir la 4e République enferrée dans le conflit algérien. Bonjour Irvin Wall, vous êtes donc spécialiste connu des relations de la France, en particulier avec les États-Unis pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes également professeur émérite d'histoire à l'Université de Californie Riverside et également chercheur associé à la New York University. Et vous venez de publier en français, par les bons soins des éditions Soleb, dans une traduction de Philippe-Étienne Raviard, avec une préface de Georges-Henri Soutou, un livre important sur les États-Unis et la guerre d'Algérie. Une sorte de suite, pourrait-on dire, à votre travail précédent, puisque un des travaux qui ont été publiés de vous il y a quelques années, c'était un travail sur l'immédiat après-guerre et cette période un peu charnière, dirons-nous, entre la victoire des Alliés et justement le début de la guerre d'Algérie.
Oui, c'est vrai. En effet, j'avais l'idée de faire ce livre justement parce que j'avais fait l'autre. Et j'ai voulu prendre l'histoire jusqu'à la fin de la 4e République. Et j'ai toujours soupçonné qu'il devait être un rôle américain dans la chute de la 4e, parce que les Américains, ils avaient travaillé tellement dur pour soutenir la 4e République. Ça, c'était la ligne continue de leur politique jusqu'à 1958. Et les archives avaient justement ouvert aux États-Unis, il y a une loi de 30 ans, la même chose en France. Tout était disponible du point de vue des relations franco-américaines. Alors, c'était logique de continuer le travail. Mais en faisant ce travail, j'ai tout de suite trouvé que je ne pouvais pas arrêter en 1958. Il fallait continuer jusqu'à 1962 et la fin de la guerre d'Algérie, parce que je crois que De Gaulle a continué la politique de la 4e.
Oui, alors ça, c'est évidemment, c'est le thème central de votre livre. Nous y viendrons un peu plus tard, puisque vous allez plus vite que la musique, oui. Irvin Wall, en évoquant cela. Je voulais revenir sur votre travail précédent. Vous y montriez effectivement que cette implication allait très loin, en particulier par anticommunisme de la part des Américains.
Oui, ça c'est vrai. Pendant cette période-là, les Américains étaient vraiment impliqués dans la vie politique intérieure de la France. Mais ce que je crois être la vérité, c'est qu'après 1954, ça a cessé. C'est-à-dire, c'est Pierre Mendès-France qui a dit franchement aux Américains, et il avait beaucoup de difficultés avec Washington pendant son gouvernement, c'était une vraie cassure. dans l'histoire de la quatrième. Et il a dit franchement à l'ambassadeur américain qu'il faut cesser ces ingérences dans la politique française.
Alors, pour être précis, ces ingérences, elles étaient de quelle nature dans la période justement qui précède l'arrivée de Pierre Mendès-France au pouvoir et la défaite de Dien Bien Phu? C'était quoi?
Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas vraiment savoir parce que c'est toujours caché. Et le CIA ne relâche pas ces documents. Quand j'ai demandé des documents de la CIA sur cette période, ils m'ont envoyé un paquet de documents sur les visions d'objets dans l'espace.
Oui, les ovnis, ce qu'on appelle les ovnis ou les donc les
unidentified flying objects,
les soucoupes volantes.
Oui. Alors c'est tout ce qui ils m'ont donné et quelques analyses sur les syndicats français qui auraient pu être écrits par n'importe quel
journaliste,
chercheur ou journaliste. Oui, c'est ça.
Et pourtant, évidemment, vous parlez des syndicats, l'influence est grande dans la création
de forces
ouvrières, par exemple.
Alors là, j'ai trouvé directement l'évidence parce que j'ai cherché dans les archives de l'AFL aux États-Unis et sur les agissements de Irving Brown. Mais c'était à la fois un peu transparent. Je crois que tout le monde en France était au courant du fait que Brown avait beaucoup aidé à... avec la scission
Irving Brown, qui dirigeait
donc ouvrières de la CGT en 1947.
Voilà, Irving Brown dirigeait un grand syndicat, confédération des syndicalistes.
Oui, et il y avait des autres pressions. Par exemple, il y avait une pression directe des Américains sur le gouvernement français au moment de l'arrestation de Jacques Duclos en 1952. Et c'était vraiment à cette époque une question de demander des choses des Français. Parce qu'on recevait beaucoup d'argent du point de vue militaire et à la fois pour la guerre
En
Indochine.
Oui, alors ça, c'est une des particularités, effectivement, que vous faites ressurgir dans vos travaux, Irving Wall, c'est l'importance du soutien américain en matière militaire. Il faut reconnaître qu'effectivement, la France, dans ces années d'après-guerre, est dans une situation catastrophique au point de vue économique, et que malgré les premières périodes de l'entre-deux-guerres, où l'industrie aéronautique, en particulier, était assez florissante en France, eh bien, c'est difficile de se relancer. Et c'est effectivement l'aide américaine. Ce sont les commandes américaines qui vont permettre, dans le cadre de la guerre d'Indochine, de moderniser une partie de l'armée française, Irving Wall.
C'est absolument vrai. Les Américains, ils ont payé 80% des frais de la guerre d'Indochine vers la fin. Et deuxièmement, j'ai tout un chapitre très très long sur cette question de l'aide militaire qui a commencé en 1950. Et c'était pour reconstruire l'armée française pour que les Français pourraient donner des soldats nécessaires pour la défense de l'Ouest contre l'Union soviétique. Et pour ça, en 1952, les Français avaient promis à l'OTAN 12 divisions un jour. Alors j'ai démontré dans ce livre justement qu'ils ne sont jamais matérialisés. Ils se sont trouvés en Algérie et pas en Allemagne ou pas en France pour éventuellement couvrir une éventuelle invasion par les Soviétiques. Alors la guerre d'Algérie, pour cette raison-là, était très gênante du point de vue de l'OTAN et du point de vue des États-Unis à cette époque.
Oui, alors ça, effectivement, c'est une donnée qu'on a assez peu en tête et sur laquelle nous allons insister un peu plus tard dans notre entretien, Irving Wall. Mais on comprend bien, à vous entendre, qu'effectivement, le geste d'indépendance de Pierre Mendès-France au moment du court passage de Pierre Mendès-France à la présidence du Conseil pouvait être très important aux yeux des États-Unis, c'est-à-dire qu'il marquait une césure, comme vous semblez le dire, donc dans la politique française, dans la volonté de se séparer justement de cette tutelle économique, au moins américaine.
C'est ça, absolument. Mendès-France, d'abord, a fini avec la guerre en Indochine, avec des pires conditions du point de vue de la diplomatie américaine, parce que Dulles, à cette époque, voulait continuer la guerre. C'était John Foster Dulles, qui était le secrétaire d'État américain, voulait absolument continuer la guerre en Indochine parce que c'était une guerre anticommuniste. Et Mendès France allait lui-même à Genève pour négocier la paix. Et les Américains refusaient même à reconnaître cette paix là-bas. Et vous savez l'histoire de la guerre d'Indochine. Ils ont poussé les Français à la côté. Après, ils ont mis leur marionnette au pouvoir, Ngo Dinh Diem. Et ça a commencé l'histoire américaine au Vietnam.
Tout de suite après le départ des Français. Oui. Mais alors évidemment, on s'aperçoit dans votre livre « Les États-Unis et la guerre d'Algérie », Irvin Wall, paru aux éditions Soleb, donc on s'aperçoit que la position des Américains vis-à-vis de l'Algérie est bien différente, au départ tout du moins, de la position des Américains vis-à-vis de la guerre d'Indochine. Ça n'est pas du tout le même contexte. Et d'une certaine façon, on peut dire que les Américains sont plus ennuyés par cette guerre que par la guerre d'Indochine, Irvin Wall.
C'est, dans une certaine mesure, je ne sais pas qu'ils étaient plus ennuyés, parce qu'ils étaient très ennuyés par l'autre. Mais quand même, c'est vrai que la guerre d'Algérie les gênait beaucoup. D'abord, du commencement de la guerre, ils ne croyaient jamais qu'il y avait une question de communisme dans l'FLN. Et l'FLN était très habile. Du commencement de la guerre, ils ont entretenu leurs relations avec Washington. Et il y avait des tractations, des discussions, toujours, pendant toute la période de la guerre, et des assurances données par l'FLN qu'ils étaient anticommunistes et qu'ils ne voulaient que d'intégrer l'Algérie dans une politique mondiale, surtout peut-être un peu neutraliste. Ils n'entreraient pas dans l'OTAN, mais ils étaient à côté de l'Ouest contre le communisme. Et en fait, le Parti communiste algérien n'était pas permis d'entrer dans l'FLN comme tel, mais ils étaient obligés d'entrer individuellement.
Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous faites part, c'est assez rare de la part d'un historien, de vos surprises, Irvin Wall. C'est-à-dire que vous dites, quand j'aborde ce sujet avec, disons, quelques idées reçues, quelques idées que j'ai lues ailleurs, et puis aussi en fonction de ce que je connais de la période qui précède. Et donc, lorsque j'arrive sur ce sujet du rapport des États-Unis, de la France et de la question algérienne, je suis surpris. En quoi est-ce que vous avez été surpris en particulier, Irvin Wall?
J'ai été surpris par deux choses, et vraiment c'était un surpris, parce que quand j'ai commencé ce livre, je croyais tout ce qu'on trouve dans l'historiographie jusqu'à maintenant. En général, on croit que de Gaulle avait, du moment qu'il a pris le pouvoir, un plan, une idée de se débarrasser de l'Algérie pour commencer sa politique étrangère. Et ça venait de ses mémoires. C'est ça qu'il a écrit, qu'il savait au commencement que la France ne pouvait pas garder l'Algérie. Moi, je pense avoir trouvé dans les documents que de Gaulle a fait tout ce qu'il pouvait jusqu'au dernier moment pour garder l'Algérie. Et s'il ne pouvait pas, c'est parce qu'il n'a pas réussi à attirer les Américains à coopérer avec lui, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas tenir l'Algérie sans l'Amérique. Alors, il a, à mon avis, il a offert une espèce de marchandise, si vous voulez. La France serait intégrée bien à l'OTAN et ferait un bon partenaire aux Américains dans le monde, si les Américains soutenaient la France en Europe et en Afrique. En Europe, pour faire le marché commun sous la direction de la France, et en Afrique, la communauté française, dont de Gaulle disait toujours la pièce maîtresse serait l'Algérie. L'Algérie serait le pont entre l'Europe et l'Afrique.
Avec cette idée d'Eurafrique, qui était une idée très à la mode dans les années 50, à la fin des années 50.
C'est ça. Et c'était annoncé par, en 1956, Guy Mollet est allé à Washington. 57, excusez-moi, c'était février 57, pendant sa visite à Washington. Il a annoncé à tout le monde que la France faisait en Algérie une politique de l'Eurafrique. Et c'était pour séduire les Américains à soutenir la France.
Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que vous ne remettez pas, disons, Guy Mollet, qui est assez honni dans la mémoire politique française, en particulier une certaine mémoire de gauche, vous ne le remettez pas sur un piédestal, mais néanmoins, vous tentez de montrer que beaucoup de choses qui ont ensuite été peut-être mises en œuvre par De Gaulle ont été lancées au moment de Guy Mollet. Vous évoquez évidemment la question nucléaire, vous évoquez cette politique justement vis-à-vis des États-Unis, vous évoquez beaucoup de moments de cette période courte, et je voudrais qu'on insiste pendant un certain temps dans notre entretien, qui dure donc de 1956 au printemps 1957, donc, où Guy Mollet est au pouvoir. 1956, c'est une date visiblement que vous conservez comme une date importante, Irvin Wall, dans cette longue durée de 8 ans de la guerre d'Algérie.
Oui, justement, parce que c'était la crise de Suez que nous maintenant commémorons, si vous voulez, la 50e année. Et c'est vrai, Suez représentait une cassure, une deuxième cassure, si vous voulez, de Guy Mollet et sa politique contre les Américains. Parce que du moment que Nasser, le dirigeant de l'Égypte, avait nationalisé le canal de Suez, d'ailleurs, on disait que c'était la faute de John Foster Dulles parce que c'est les Américains qui ont retiré leur soutien pour le barrage d'Assouan à ce moment. Mais en 1956, déjà, les Français avaient construit un mythe de Nasser comme nationaliste arabe. Et il y avait en effet un émetteur de radio qui s'appelait à la fois La Voix des Arabes, qui était donné, le pouvoir de faire ça, qui était donné par les CIA. Ça, c'est d'ailleurs parce que c'était un moment qu'on travaillait avec Nasser en 1952 jusqu'en 1954. Ça existait. Et ça appelait les Arabes à se faire la rébellion contre l'impérialisme de l'Ouest. Alors, on croyait que Nasser devait être responsable pour la rébellion en Algérie. Et si Nasser était chassé du pouvoir, la rébellion disparaîtrait.
Oui, ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, vous montrez que cette opération ratée, donc par la faute des Américains, disent
oui,
les Français, cette opération ratée de Suez, donc qui est montée à la fois par les Britanniques et par les Français, mais également par les Israéliens, et vous montrez bien l'importance qu'il y a à ce que ça soit un trépied, donc trois nations qui s'intéressent à cette question-là. Ces trois nations s'y intéressent pour des raisons très différentes. Les Israéliens pour leur propre sécurité, les Britanniques pour la question justement du lien avec l'autre partie de l'ancien empire, donc du côté de l'Indre et plus loin, et la France pour la question algérienne. Donc c'est une coalition d'intérêts qui trouve son intérêt en allant justement monter cette expédition contre Nasser, Irvin
Wall. Oui, c'est vrai. Tout le monde avait ses propres buts, mais c'est ça qui faisait l'alliance possible. Et la France a armé Israël. Il faut se rendre compte qu'en 1955, Nasser avait obtenu des armes lourdes de l'Union soviétique. Alors, ça faisait un vrai drame pour les Israéliens parce qu'ils étaient surclassés. Il y avait un embargo officiel des trois pouvoirs de l'Ouest contre une politique de l'armement au Moyen-Orient. Mais à ce moment-là, les Soviétiques ils se sont mêlés dans l'affaire et les Israéliens avaient vraiment peur. Mais pour la France, qui objectivement devenait un allié d'Israël parce qu'ils étaient tous les deux contre les Arabes, si vous voulez, mais plus que ça, il y avait une certaine sympathie parmi les résistants en France et le peuple juif qui avait tellement souffert pendant la guerre.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous montrez dans une partie de votre livre, Irving Wall, combien il y a des, disons, un dissensus, au moins, disons, une tension entre ce gouvernement dirigé par Guy Mollet et certains de ses chefs, et en particulier qui sont assez favorables au soutien à Israël, et puis un Quai d'Orsay qui est naturellement, traditionnellement, marqué par l'alliance avec les pays arabes, qui est traditionnellement pro-arabe. D'ailleurs, un Quai d'Orsay qui sera maintenu pour cette expédition de Suez, dites-vous, qui sera maintenu à l'écart des décisions et avec donc une tension interne au gouvernement français et puis également une tension avec les Américains ne souhaitant pas particulièrement favoriser, dites-vous, les Israéliens dans cette affaire.
Oui, ça c'est absolument vrai. D'abord, les Israéliens avaient des amis en France, mais pas dans le Quai d'Orsay. L'affaire de Suez était en effet montée par Guy Mollet, Christian Pinault et le ministre de la guerre, Borges Manoury. Et le Quai d'Orsay, longtemps, n'était même informé de ce qui se passait. Et la grande réunion entre les trois pouvoirs à Sèvres, c'était très secret, c'était caché de tout le monde.
Et donc ça veut dire, ça, quand c'est... vous dites les trois pouvoirs, c'est l'arrivée de Ben-Gourion pour une négociation à Sèvres.
Mais il faut
justement
comprendre que le gouvernement français travaillait comme ça, c'est-à-dire que chaque ministre était capable dans ce gouvernement de faire ce qu'il voulait. Par exemple, au moment du commencement de la crise de Suez, c'était le jour même de la réunion de Sèvres, il y avait l'enlèvement de Ben Bella, par
le
un avion français.
Le détournement de l'avion de Ben Bella.
Le détournement de l'avion. Et ça, c'était monté, je crois, avec l'autorisation de plusieurs officiels français. Ce n'était pas un exemple d'une rébellion des officiers militaires en France. Mais c'était en effet autorisé par Robert Lacoste, qui était le gouverneur de l'Algérie, par Max Lejeune, qui était le secrétaire de l'armée, et il y avait des autres qui connaissaient absolument à ce moment-là. C'est possible que Borges Manoury savait lui-même, mais que Mollet n'était pas informé.
Oui, ce que vous montrez, enfin ce que vous tentez de montrer, Irving Wall, c'est une grande panique à l'intérieur du gouvernement français, une grande panique qui va finir par gagner le soutien américain au gouvernement français et à la 4e République. Vous montrez que, tout compte fait, à l'intérieur du gouvernement français, eh bien, les décisions se prennent sans que tout le monde soit véritablement au courant, ne remontent pas toujours jusqu'à la présidence du Conseil, et que donc, lorsqu'on est un observateur extérieur, comme un ambassadeur, par exemple, des États-Unis en France, eh bien, on est légèrement surpris qu'on appelle au soutien des États-Unis en permanence, alors que les politiques vont dans des sens extrêmement différents, expliquez-vous, Irving Wall.
Oui, c'est absolument vrai, et ça devenait une vraie crise en 1958, lorsque l'affaire de Sackett. Parce que ce moment-là, les Français avaient bombardé un petit village
à la frontière entre l'Algérie et la Tunisie, du côté tunisien.
En disant que les rebelles montaient des raids contre l'Algérie de là. Alors, ils ont utilisé des avions américains, ça c'est, il faut comprendre, même des B-27, qui étaient un armement très lourd à ce moment-là. Ils ont bombardé un village, ils ont tué 70 civils au moins.
En faisant beaucoup de blessés également, plus d'une centaine de blessés.
Oui, beaucoup de blessés. En disant que c'était une base rebelle. Alors, quand il fallait expliquer ça aux Américains, Félix Gaillard, qui était le premier ministre à l'époque, a dit que c'était l'armée. Je ne pouvais pas contrôler l'armée. Ils ont monté ça sans l'autorisation du gouvernement. Moi, je crois avoir montré, ça c'est des archives françaises que j'ai trouvées à Vincennes, des documents qui démontrent que c'est,
au moins
l'armée avait l'autorisation de Chaban Delmas,
qui était ministre
qui
de
était
la Défense.
Le ministre de la Défense nationale.
Oui, au moins verbalement.
Au moins verbalement, une autorisation pour monter un raid comme ça. avec des armements lourds pour frapper vraiment contre les rebelles. Et j'ai des citations des sources directement dans le texte. Alors, quand Gaillard expliquait aux Américains, je ne suis pas responsable, c'était les militaires. Alors, il y avait deux choix que les Américains avaient. Et ni l'un ni l'autre était acceptable du point de vue de une France qui voulait à la fois se doter de la bombe économique. Il faut se rendre compte de ça. C'est-à-dire que soit que Gaillard mentait, ça c'est une possibilité, alors on ne peut pas avoir confiance dans ce que le premier ministre de la France dit, ou pire, Gaillard ne contrôlait pas ses militaires, qui est pire.
Donc il y a une sorte de schizophrénie américaine à devoir à chaque fois aider, pas trop, suffisamment, plaider à l'ONU ou pas, donner des armes ou pas aux Français dans le contexte de cette guerre qui est une guerre coloniale et qui est contestée par une partie de l'opinion américaine, Irving Wall.
Justement, c'était le vrai dilemme américain, c'est-à-dire on se voulait être un pays anticolonial. On voulait des bonnes relations avec le tiers-monde. Et vous avez évoqué les deux cas du Maroc et surtout la Tunisie, parce qu'en Amérique, on aimait beaucoup Bourguiba, qui était exactement l'exemple du tiers-monde qu'on voulait voir à Washington. C'était un Middle West anticommuniste, dirigeant d'un pays arabe, et on voulait bien travailler avec Tunisie pour le développer comme modèle pour le tiers-monde. Mais les Français étaient là pour bloquer une politique d'ingérence, des relations directes avec ces deux pays. Et à cause de la guerre d'Algérie, on était, du point de vue de Dulles, en danger de perdre ces deux pays au communisme,
de les laisser tomber dans le
soutien de l'Union soviétique. Par exemple, les États-Unis voulaient bien donner des armes à la Tunisie. Par traité, c'est la France qui devait le faire.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut expliquer aux auditeurs, lors des traités d'indépendance, donc qui avaient été accordés, cette indépendance accordée par la France à la Tunisie, il était dit que la France était le fournisseur officiel des armes auprès du gouvernement tunisien. Mais évidemment, le gouvernement de Félix Gaillard, je crois, ou de Bourgès-Monnery, je ne sais, a toujours hésité à les fournir, sachant que peut-être ces armes pourraient être utilisées par les Algériens et cédées aux Algériens dans le contexte de la guerre contre la France. Et donc les Américains, à un moment ou à un autre, ont décidé de passer outre l'autorisation de la France et de fournir des armes qui étaient demandées par Bourguiba, ce qui a créé une césure entre les deux pays.
Oui, c'est justement ça, c'était septembre 57 qu'on a fait la décision, et on voit dans les papiers personnels d'Eisenhower comment il était frustré par les Français qui avaient menacé de briser avec l'Amérique l'OTAN. Alors, il a décidé à ce moment-là, il faut donner des armes à la Tunisie, sinon nous allons perdre ce pays, et si les Français ne veulent pas, nous le faisons, parce qu'il faut se rendre compte que les Américains ne croyaient pas dans la guerre du commencement.
Dans la guerre d'Algérie.
Il y avait une certaine ambiguïté, si vous voulez, dans leur politique du commencement. Ils étaient obligés d'aider un allié. Ça, c'était leur politique. Mais à la même fois, ils ne voulaient pas rompre avec le tiers-monde. Alors, c'était un dilemme très, très difficile. Par exemple, les Français ont obtenu de Douglas Dillon, l'ambassadeur en 1956, une déclaration de soutien.
Oui, une déclaration de soutien dans laquelle il dit « Les Français se méprennent sur l'attitude américaine, il y a un soutien permanent des États-Unis à la France, un envoi de nouveaux hélicoptères ». Et donc il dit « on n'est pas contre vous d'une certaine façon dans cette déclaration ». Mais ça dure très peu de temps, le malentendu se réinstalle très vite.
Oui, et à la même fois, Dillon disait « Nous attendons une politique libérale ».
Ouverte, oui.
Ouverte, c'est-à-dire l'intégration des musulmans dans la vie politique algérienne. Et les Français n'ont jamais donné aux Américains des démonstrations de ce qu'ils voulaient. Et ça, c'était vraiment le problème. La loi cadre qui était enfin passée dans le printemps de 58 n'était jamais vraiment appliquée. Et c'est de Gaulle qui a essayé plus tard, en essayant de trouver des musulmans qui collaboreraient avec la France. Il a appliqué un peu une politique d'intégration des musulmans, mais ça n'a jamais marché.
Oui, mais
c'était trop tard.
Ce qui est très intéressant, Irvine Wall, dans votre livre, c'est qu'on s'aperçoit que, par exemple, ce que l'on attribue habituellement à De Gaulle, dans les années, au cœur des années 60, à la fois le discours de Phnom Penh, mais également le retrait donc, du commandement intégré de l'OTAN, toute cette période du milieu des années 60, qu'on attribue à De Gaulle, donc cette volonté d'indépendance et surtout cette méfiance vis-à-vis de l'alliance américaine, vous dites qu'elle naît avant l'arrivée de De Gaulle au pouvoir. Vous expliquez que chez certains socialistes en particulier, au gouvernement dans ces années 56, 57 et début 58, il y a une méfiance, on se dit, mais est-ce qu'on serait vraiment soutenu par les Américains en cas de crise avec les Soviétiques, par exemple ?
Absolument vrai. Et justement, au moment de la crise de Suez, c'était le 5 novembre, quand Adenauer, par hasard, était en France avec Guy Mollet.
Se trouve à Paris à ce moment-là.
Il se trouvait à Paris. À ce moment-là, c'était Bulganin qui a menacé de lancer des missiles pour soutenir Nasser contre les Américains. Et Mollet a demandé à Douglas Dillon où est l'Amérique.
L'ambassadeur américain.
Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous pouvez dire que vous allez empêcher les Russes? Et les dire franchement que la France est un allié, n'osez pas faire ça. Et les Américains n'ont rien dit. Dillon a envoyé un message spécial à Washington pour demander une déclaration aux Russes. Mais les Américains ont refusé parce qu'ils coopéraient avec les Soviétiques pour contrarier les initiatives à Suez. Et justement, à ce moment-là, c'était le 6 novembre, parce que
6 novembre 1956. Mollet
a été obligé d'annuler le débarquement parce que Anthony Eden, qui avait le commande, avait cédé aux pressions américaines.
Oui, cela veut dire qu'à ce moment-là, il y a comme une... Ça y est, le poison s'est installé dans la relation franco-américaine. C'est-à-dire qu'on se dit, en cas de crise très forte vis-à-vis de l'Union soviétique, on ne sera pas assuré d'un soutien logistique et même nucléaire, s'il le faut, de la part des États-Unis.
Et ça, c'était l'argument plus tard, toujours de De Gaulle. La France doit se doter des armes nucléaires parce qu'on ne peut pas être certain que l'Amérique entrerait dans une guerre atomique pour la protection de l'Europe. Pourquoi il ferait ça? Ce n'est pas logique.
Et donc, c'est là aussi où Adenauer et Guy Mollet, avec ensuite le soutien des Italiens, lancent donc l'opération Pierre Latte, donc, qui permettra ensuite à la France de se doter de l'arme nucléaire. Ensuite, le général de Gaulle décidera que la France continuera toute seule l'aventure. Mais c'est le début de Colomb-Béchard, les essais nucléaires dans le sud algérien, qui sont d'ailleurs un signe.
Et un essai de coopération avec l'Allemagne pour la construction des armes nucléaires, qui était annulée plus tard par de Gaulle. Ça, c'est ça qui est intéressant, parce que de Gaulle a refusé des armes nucléaires aux Allemands. Mais c'est très intéressant qu'en réaction à la crise de Suez, Mollet a pris plusieurs décisions. D'abord, d'aller avec l'Europe en construction pour essayer de faire de l'Europe une troisième force entre l'Union soviétique et les États-Unis.
Ce que ne voulaient pas les Américains.
Pas du tout. Ils voulaient un partenaire. Ils soutenaient la politique européenne, mais avec des autres buts. Et avec une peur que ça pourrait tourner contre eux. Ils étaient conscient dès le commencement que ça était possible.
Alors Irving Wall, vous avancez en avançant dans cette période des années 50 avec vous, à partir de votre livre « Les États-Unis et la guerre d'Algérie », on voit bien effectivement, et vous avez évoqué le bombardement de Sakiet et donc le fait que l'opinion internationale se soit émue de ce bombardement en février 1958 et que ce bombardement, dites-vous, selon vous, accélère l'arrivée, la crise de la 4e République et l'arrivée de Gaulle au pouvoir. Et c'est là où vous voyez que peut-être Jacques Chaban-Delmas, gaulliste au sein d'un gouvernement de la 4e République, joue un rôle, en sous-main, dites-vous, pour pouvoir
accélérer. Un peu de conspirateur contre le régime duquel il faisait partie.
Oui, vous le dites même clairement.
Oui. Moi, j'ai trouvé une phrase, même dans ses mémoires, dans lequel il dit « Je faisais une propagande contre le régime que j'ai servi à la fois ». C'est quelque chose comme ça, je me souviens directement. Mais ce qui est en train, ce moment-là, et peut-être ça serait le deuxième point de mon livre qu'on n'a pas jusqu'à maintenant évoqué, c'est que les Américains avaient décidé, à ce moment-là, justement à cause de la crise de Sakiet, qu'il ne valait plus
la peine
de soutenir la 4e République.
Oui, alors vous faites, ce livre-là, vous faites de Gaulle le candidat des Américains, ce qui peut paraître absolument extraordinaire.
Oui, du point de vue français, je sais.
Du point de vue français, ça peut paraître même choquant, étant donné ce que de Gaulle a dit lui-même de sa propre expérience, mais aussi de ce que l'historiographie française a retenu de cette période-là. Mais vous dites que, en fait, cette crise de 1958, qui précède justement l'arrivée de Gaulle au pouvoir, c'est aussi l'idée que pourquoi continuer de la part des Américains à redonner de l'argent ? Il y a une crise financière très importante à l'époque, la balance des paiements est
elle
fortement...
Oui, elle venait de donner beaucoup d'argent aux Français pour régler cette crise. C'était en pleine guerre d'Algérie, alors ça ne faisait pas du tout plaisir aux pays arabes. Il y avait des protestations de tout le monde arabe contre cette aide. C'était une aide passagère, si vous voulez, une crise financière qui n'avait pas grande importance, mais le Fonds monétaire international, le Trésor américain, ils ont tous donné de l'argent.
Donc, c'était de l'argent un peu à fond perdu de la part des Américains, du moins du point de vue américain,
justement,
évidemment, des États-Unis.
Justement.
Et il fallait peut-être changer le système qui, à leurs yeux, dites-vous, de la part de leurs ambassadeurs, mais aussi des bons connaisseurs du département d'État de l'Europe en particulier, à leurs yeux, cette crise ne pouvait pas se régler autrement que par l'arrivée d'un homme plus fort au pouvoir, c'est donc de Gaulle. Quels sont les documents, Irving Wall, sur lesquels vous vous êtes appuyé justement pour pouvoir appuyer cette problématique ? Est-ce que c'est comme une gerbe de documents, disons, venant d'un peu partout, à la fois des archives françaises et des archives américaines, ou est-ce qu'il y a un document plus central qui vous a aidé à bâtir cette problématique, Irving Wall?
Vous voulez, comme on dit en anglais, le smoking gun. Mais peut-être ça n'existe pas, mais il y a beaucoup d'analyses. Et on peut voir dans les comptes rendus des discussions entre l'ambassadeur américain et de Gaulle.
Qui
a commencé en 1956 déjà. Ou peut-être même un peu avant, le département d'État qui avait une prohibition contre les conversations avec de Gaulle a cessé de suivre cette politique. Ils ont commencé des tractations avec lui. Alors on peut trouver des assurances en commençant en 1957 que de Gaulle donnait aux Américains, s'il venait au pouvoir, il suivrait une politique libérale en Algérie. Ça, c'est la première chose. Alors, il faut comprendre que de Gaulle faisait tout le monde ce qu'il voulait entendre. C'est un politicien, c'était normal. Chaque personne qui avait une interview avec de Gaulle sortait en croyant que de Gaulle était d'accord avec lui.
Alors ça, vous savez que c'est une vision très iconoclaste de Gaulle.
Oui, c'est ça. Il a dit toutes les choses à tout le monde pour les faire plaisir, pour les faire croire qu'il ferait une politique acceptable à eux. Alors, Et autre chose que j'ai trouvé qui est très intéressant dans les documents diplomatiques américains, les comptes rendus, des conversations des émissaires de De Gaulle avec l'ambassade américaine au moment de la crise après le 13 mai 1958. Il y avait plusieurs. Debray lui-même est venu parler.
Et pourtant, dites-vous, Dieu sait si Debray était hostile aux Américains.
Le plus important, mais il y avait autre chose. C'était un émissaire qui s'appelait Henri Tournay, qui était ancien militaire, qui avait des relations et qui était proche de plusieurs gaullistes à haut niveau. Et il s'est présenté à l'ambassade et il a dit, je parle avec l'autorisation du général. Et qu'est-ce qu'il a dit? Si je viens au pouvoir, je ne ferai pas une politique contre l'OTAN. Je veux des changements dans l'alliance, mais la France serait un allié loyal. Deuxièmement, la France ferait une politique européenne. Alors, les Américains étaient assurés par De Gaulle que s'il venait au pouvoir, il ferait des choses comme ça. Alors, deuxièmement, c'est lui seul qui, du point de vue américain, était capable de finir avec la guerre. Et il s'est présenté à eux comme un libéral. Et lui, ils ont cru, et justement, à mon avis, que De Gaulle était capable de prendre des décisions que la 4e République ne pouvait pas faire.
Oui, alors, combien de temps faudra-t-il aux Américains, selon vous, Irvin Wall, pour déchanter de cette histoire, cette lune de miel avec le général de Gaulle? Est-ce que dans les premiers mois, les premières années même du pouvoir gaulliste en France et de la 5e République, le général de Gaulle suit la ligne qu'il s'était fixée ou est-ce qu'il commence déjà à dévier par rapport à cette ligne
Il commence à dévier et suivre la ligne à la même fois, c'est-à-dire en septembre 1958 déjà, au moment qu'il a lancé la paix des braves. Ça, c'est pour faire plaisir aux Américains. Toutes les initiatives qu'il a prises après, par exemple, septembre 1959, l'autodétermination, il donnait un choix aux Algériens entre l'association, l'indépendance et l'intégration. C'était aussi pour faire plaisir, je crois, à un moment donné aux Américains. Parce qu'il lançait des initiatives pour créer un directorat de trois pouvoirs au sommet de l'Alliance Atlantique.
Alors ça, c'est un point sur lequel il faut peut-être s'attarder un tout petit peu. C'est cette théorie que vous semblez déceler dans le pouvoir du général de Gaulle de cercle concentrique, donc un cercle dans lequel l'OTAN, enfin l'Alliance Atlantique, serait dirigée par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, avec une sorte de parité,
oui,
pourrait-on dire.
Vrai.
Un deuxième cercle qui serait le cercle européen, dans lequel la France prendrait une part prépondérante. Et puis un troisième cercle qui serait cette France-Afrique, qui serait donc un cercle plus éloigné, mais qui permettrait de conserver l'alliance avec les anciennes colonies.
Mais je suis absolument sûr que c'était un propos lancé sérieusement. C'était pris sérieusement par les Américains et avec des conditions. C'est-à-dire, nous allons être un bon allié de vous, mais comment ça marcherait, cette politique? C'est-à-dire que les deux puissances soutiendraient la politique de la troisième dans la partie du monde sous l'influence de ce troisième. Alors, les Américains seraient suivis par les Français et les Britanniques dans la politique de la Pacifique et avec la Chine surtout. Et De Gaulle se plaignait que les Américains menaçaient la guerre nucléaire contre la Chine sur le problème de Kemoy et Matsu.
Les deux îles donc, oui, qui sont au large de la Chine.
La deuxième chose, l'Empire britannique, si vous voulez, serait soutenu par la France et l'Amérique. Et pour la France, c'était l'Eurafrique. Ça serait la chasse gardée, si vous voulez, des Français.
L'idée de la communauté, donc ce qu'on appelle...
De la communauté. Et l'Amérique suivrait la politique de la France dans cette région.
Oui, mais on peut dire que tout cela aurait pu rester du wishful thinking, de l'espérance comme cela lointaine. Est-ce qu'on est allé plus loin que cette espérance ou que ce rêve un peu lointain? Est-ce qu'on est allé plus loin dans les négociations? Et qu'est-ce qui a fait, au bout du compte, Irvin Wall, que tout cela a capoté? C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, eh bien, ça n'a pas vu le jour.
Les négociations ont continué pendant 2 ans. Ils étaient, en fait, Eisenhower a continué jusqu'à la fin. Et il faut se rendre compte aussi qu'il y avait une deuxième chose qui était également importante pour la France à ce moment-là. De Gaulle voulait l'aide américaine pour le programme nucléaire français. Alors ça, c'était très important parce qu'il fallait que la France découvre ce que l'Amérique connaissait déjà. Ça, c'était vrai tout au cours du programme nucléaire français. Alors du moment que Eisenhower s'est rendu compte que la France ferait la bombe académique éventuellement.
Y compris toute seule.
Oui, il comprenait tout ça. Et il a proposé... à ses conseillers qu'on aide la France avec ses projets nucléaires. Mais là, il y avait le problème du Congrès et toute la bureaucratie américaine qui était contre. Et il y avait une loi américaine à cette époque, le McMahon Act, qui empêchait l'Amérique de donner des secrets nucléaires.
Le transfert de technologie nucléaire.
Technologie. Il aurait besoin d'une loi pour annuler cette législation et c'était impossible à ce moment-là d'obtenir.
À partir de quel moment, et y a-t-il un moment jusqu'en 62, où vous voyez que la politique gaulliste ou gaullienne diverge complètement de cet espoir des années 1958-1960?
Je dirais que la décision de finir de soutenir de Gaulle venait après l'échec des négociations de Melun. C'était en 1960. Et à ce moment-là, il y avait un grand débat dans l'administration américaine pour recommencer une politique qu'ils avaient commencé lorsque l'affaire de Sackett, mais qui était mis à côté à cause de l'arrivée de De Gaulle. Et à la même fois, il faut se rendre compte qu'il y avait des élections américaines et Kennedy était le candidat. Et c'est le même président Kennedy qui, comme sénateur Kennedy en 1957,
avait fait
une déclaration critiquant le gouvernement Eisenhower à cause de la politique suivie jusqu'alors en Algérie, en disant que les États-Unis doivent soutenir le droit des peuples du Tiananmen pour leur indépendance.
Un discours de juillet 57 en faveur d'une paix fondée sur l'autonomie ou l'indépendance algérienne.
Oui, c'est ça.
Donc, évidemment, cette personne-là arrivant...
Cette politique aurait été lancée encore, mais De Gaulle, il s'est rendu compte que cette pression et ce danger existaient. Et lui-même, il a fait la décision de négocier directement avec l'FLN. Now, moi, je crois que c'était un peu sous la menace qui, je ne trouve pas qu'il était directement informé. Ça, je ne peux pas dire dans les documents. Mais il devait connaître des discussions qui, et de l'atmosphère du moment que ça serait un danger.
Pour conclure, Irvin Wall, qu'est-ce qui, selon vous, explique que ce que vous montrez dans votre livre ne soit pas passé à la postérité, dans l'imaginaire et dans la tête des commentateurs, c'est-à-dire des historiens, des journalistes, des témoins même, qui se souviennent de la dureté des positions du général de Gaulle vis-à-vis des Américains, très tôt, dès son arrivée au pouvoir, disent certains. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'aujourd'hui encore, dans notre pays, on ne se souvienne pas, justement, de cette histoire-là? Est-ce que c'est parce que c'était une histoire secrète, discrète, en sous-main, ou est-ce que c'est simplement parce qu'on a voulu accentuer le caractère de grandeur du pays sous la houlette du général de Gaulle, Irving Wall?
J'hésite à prendre des leçons de l'histoire parce que tout le monde...
Il faut toujours craindre les leçons d'histoire.
L'histoire des leçons qu'ils veulent. Mais je dirais qu'en France, on pourrait se rendre compte que le général de Gaulle n'était pas une sainte, comme il y a une tendance dans l'historiographie de faire de lui. C'est-à-dire qu'il y a un mythe de la politique gaulliste qui est tout à fait un peu différent que comme on a pensé jusqu'à maintenant. Alors, quoi faire avec ça quand on fait une politique indépendante maintenant? Ça, c'est autre chose. Il y a aussi des parallèles que je trouve très, très intéressants entre la crise de Suez, la guerre d'Algérie et même l'Irak.
Et la crise de l'Irak.
Oui, parce qu'on voit que les différences entre les deux pays peuvent ressurgir, si vous voulez, dans presque la même façon qu'ils existaient à la fois. Qu'est-ce que c'est la guerre d'Irak? C'est une guerre néocoloniale, si vous voulez. Une crise dans laquelle les Français et les Américains n'étaient pas d'accord, pas parce qu'ils avaient des buts tout à fait différents, mais ils avaient une appréciation différente de comment y arriver à ce but-là. Alors, la différence en Irak, et en Irak, il y a un parallèle presque très étrange avec Suez, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit en Irak? La politique de Suez, c'était d'obtenir le canal, mais la vraie politique, c'était changer le régime, faire tomber Nasser. La politique des Américains, c'était les armes de destruction massive. Mais en fait, leur politique, c'était de renverser Saddam Hussein, qui était un continuateur, si vous voulez, de la politique de Nasser, un nationaliste arabe qui voulait unir les pays arabes dans une espèce de pan-arabisme.
Oui, mais la différence, et on conclura là-dessus, Irving Wall, c'est que ça n'est pas la même puissance qui
oui,
se trouve prise dans cette affaire.
Oui, mais vous voyez une conséquence de l'affaire de Suez que Tony Blair et les Britanniques, cette fois, s'alignaient avec les Américains. Et cette fois, c'est les Américains qui ont décidé de lancer l'expédition et la France qui était contre. Et moi, je dirais, dans les deux crises, c'est intéressant. L'Amérique était correcte en 1956. La France était correcte, si vous voulez, en 2003. Et la France, mais il y a une différence qui est très instructive au même moment. Quand la France voulait bombarder un pays tiers, quand la France voulait faire la guerre lui-même, il n'avait pas la marge de manœuvre pour faire ça. La France était empêchée par les Américains. Mais quand les Américains veulent bombarder un autre pays, comme ils ont fait dans leur politique dans la guerre de Vietnam, ils ont bombardé le Nord pour... les mêmes raisons, le droit de poursuite que les Français avaient voulu faire en Tunisie, l'Amérique peut se permettre. Et ils ont lancé dans une politique stupide et ils ont fait une faute, je crois, de proportion énorme en Irak.
Merci Irving Wall. Nous continuerons donc toute cette semaine, après avoir passé la semaine précédente à traiter de 1956 à l'Est, à parler donc de 1956 au Sud, Maroc, Algérie, Tunisie, mais également Canal de Suez, puisque nous aurons une émission justement sur la nationalisation du canal de Suez cette même semaine. Je rappelle que votre livre « Les États-Unis et la guerre d'Algérie » est publié aux éditions Solem. Merci beaucoup.
Comme à son habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Bolivier et Yael Mandelbaum. Les archives Inan ont été choisies par Jeannette Pazierkowski. Le site internet sur lequel vous pouvez écouter cette émission pendant un mois. Vous pouvez également la télécharger dans la journée de sa diffusion jusqu'au lendemain 9h et trouver des bibliographies complémentaires. Ce site est tenu par Antoine Lachan. À la technique aujourd'hui, Georges Chautour et Jean-Michel Després. À la réalisation, Véronique Lamandour. Notre numéro de téléphone, 01 56 40 25 78, 01 56 40 25 78, notre adresse pièce 61 23 à la Maison de Radio France et l'adresse internet franceculture.com, rubrique les émissions, la fabrique de l'histoire.